Parlons Tertiaire, au cœur des acteurs du territoire, une émission en partenariat avec Bazimo, présentée par Chloé Ressac, cofondatrice de Bazimo, et Johanna Silberstein, sur Radio Imo.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous en coproduction Radio Imo et Bazimo. On se donne donc désormais rendez-vous tous les deux mois pour évoquer l'immobilier tertiaire, trouver des solutions aux différentes problématiques qu'asset managers et propriétaires peuvent rencontrer. Et pour m'accompagner, eh bien, je serai à chaque fois aux côtés de Chloé Ressac, la cofondatrice de Bazimo. Bonjour Chloé.
Bonjour Johanna.
Pas trop stressée pour cette première?
Non, ça va.
On est ravis en tout cas de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. Alors au sommaire de ce premier numéro, eh bien, on va commencer très fort puisque nous évoquerons la crise de la Covid et comment elle a modifié les relations entre bailleurs et locataires. Et pour cela, eh bien, nous sommes accompagnés d'Adrien Béranger. Bonjour Adrien.
Bonjour Johanna.
Vous êtes directeur asset management chez Union Investissement. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Avant de vous donner la parole, on va tout de suite écouter le premier édito de Chloé Ressac.
Parlons tertiaire, l'édito.
Alors Chloé, aujourd'hui pour ce premier édito, hein, vous avez décidé de nous parler de l'aspect humain qui est entré au cœur de la relation bailleur-locataire.
Oui, tout à fait Johanna. Donc du coup, l'idée de cette série d'émissions est de plonger au cœur des métiers de la gestion de patrimoine immobilier, de comprendre les sujets du quotidien de ces acteurs, de mettre un peu les mains dans le cambouis en osant parler librement de tous les sujets et surtout de ceux qui fâchent. Alors pour cette grande première, nous allons encore parler de la crise, cette crise qui nous a tous impactés. On a beaucoup entendu parler des métiers en première ligne, tels que les caissières, les éboueurs, etc. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment parler d'autres métiers plus proches de nous, qui ont également été impactés, donc différemment certes, mais profondément tout de même. D'autres métiers qui ont dû mettre de côté leurs habitudes pour une approche qu'on pourrait qualifier de plus sociale. Là, c'est posé un dilemme, du coup. Laisser mourir des entreprises qui ne pouvaient plus payer ou aménager des facilités de paiement pour trouver des solutions win-win pérennes pour tout le monde. Après la montée au créneau des banques et de la BPI notamment, les bailleurs ont également dû faire preuve d'écoute, d'adaptation et d'empathie. Ils ont dû changer radicalement leur façon de discuter, de négocier avec les locataires bien entendu, ou de prendre en compte leurs problématiques. Et surtout, ils ont dû arbitrer. Arbitrer sur des sujets sensibles comme les cessations de paiement ou des liquidations. Un fait alors s'est imposé, revenir à une approche beaucoup plus humaine. Et donc pour ça, on est heureux d'avoir Adrien aujourd'hui qui va pouvoir répondre à quelques-unes de nos questions.
Tout à fait, justement, ça va être l'heure d'entrer dans le vif du sujet tout de suite avec notre invité.
Parlons tertiaire, l'interview.
Il est avec nous en plateau, je vous le disais, pendant le sommaire. Adrien Béranger, directeur asset management chez Union Investment, je vais y arriver. Merci d'être avec nous. Et Chloé a quelques questions pour vous.
Exactement. Donc l'idée, c'est de commencer un petit peu chronologiquement. Au début de la pandémie et notamment du premier confinement, quelles ont été un petit peu les prérogatives données aux équipes sur le terrain? Est-ce que c'était vraiment un mot d'ordre commun ou est-ce que vous avez mis en place des commissions? C'était plutôt libre, chacun faisait du cas par cas de son côté. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous.
Alors déjà, Union Investment, c'est une société qui a un patrimoine qui est majoritairement localisé à Paris. On est plutôt sur des grands immeubles qui sont majoritairement tertiaires, bureaux. On a aussi du commerce et du résidentiel. Et une autre partie du patrimoine, mais qui n'est pas gérée depuis la France, qui concerne des centres commerciaux et des hôtels. Sur le patrimoine parisien sur lequel on intervient, on a, je pense, dans un premier temps, dû prendre la mesure de cette crise. Quand on est rentré en confinement, je pense que personne ne se doutait qu'on y resterait 2 mois. Et donc on a dû nous-mêmes nous adapter en termes de méthode de gestion de notre patrimoine. Les rapports humains ont pris plus de distance puisqu'on est passé en digital. Donc on a cherché à comprendre à la fois cette crise, cet environnement très évolutif. Et je vous rappelle le rythme des prises de position ministérielles, présidentielles, qui a cadencé ces premières semaines où on apprenait beaucoup de choses finalement sur la façon dont nos politiques voulaient traiter, en tout cas en phase d'amorçage, je dirais, cette crise. Nous, de notre côté, ce qu'on a essayé de faire, c'est, parce qu'on est une filiale française dans un groupe mondial, finalement, qui est allemand, on a essayé déjà de relever, on va dire, l'étendue des attentes de nos locataires, de nos partenaires, pour essayer de voir lesquels étaient les plus fragilisés, lesquels nous faisaient déjà part de leurs difficultés économique ou alors d'un contexte qui nécessitait une action de notre part. On a essayé de synthétiser ces demandes pour avoir un regard complet de notre patrimoine en France. Et puis, dans un second temps, on a fait remonter ces informations à notre maison mère qui est en Allemagne, parce que comme on était finalement affecté à l'échelle mondiale et que les particularités, notamment européennes, qui est le gros de notre portefeuille, créent des vraies différences finalement dans les traitements à la fois politiques, financiers, locaux, mais également dans les typologies de fonds. Voilà, on va dire notre capacité finalement à traiter ces sujets-là a été prise en compte à un niveau, on va dire, mondial. Et on a essayé de faire remonter ces informations avec aussi de la conviction. Cette conviction, elle s'est basée sur les relations qu'on entretient au jour le jour avec nos différents clients partenaires. Mais également, dans une deuxième phase, je dirais, de cette crise, quand on a eu une bonne appréciation, finalement, de la façon dont les choses évoluaient, des positionnements parfois aussi des grands preneurs, ou des grands bailleurs, hein, puisqu'on s'est tous aussi, on va dire, regardés pour savoir quelle était la meilleure façon de réagir, quelles étaient les meilleures pratiques. Et je pense qu'il n'y a pas une meilleure pratique, mais il y a eu beaucoup de bonnes intentions des deux côtés. Et je crois qu'on a essayé de se rejoindre aussi sur ce qui nous semblait le plus pérenne en fonction de la typologie de société, les fonds qu'on gère, parce qu'on gère aussi de l'argent pour autrui. Hein, la majorité de nos fonds sont des fonds, on va dire, retail, hein, donc avec des petits épargnants qui placent des fonds. Donc bon, tout le monde n'a pas les mêmes capacités à intervenir par rapport aux demandes des utilisateurs. Et donc il faut aussi prendre la mesure de ce qui est capable, enfin, de ce qu'on peut faire en réalité. Et donc nous, on a essayé de part donc, de ces relations avec les utilisateurs et de nos convictions et des remontées aussi d'informations financières de nos utilisateurs. Parce que ce qu'on a décidé de faire au final, c'est de dire à chaque fois qu'on avait une demande, on demandait les situations financières finalement de ces sociétés pour pouvoir confirmer effectivement que la situation s'était dégradée. Donc on a demandé voilà, des comptes de résultats, des bilans des dernières années, parfois des attestations des experts comptables de nos utilisateurs pour aller attester effectivement qu'il y avait un choc économique qui était remarquable au sein des situations financières de ces utilisateurs et que ça justifiait de notre côté des efforts et donc que finalement nos porteurs de parts étaient... On est dans une situation qui était légitime finalement. Et donc on a pu accompagner un certain nombre de nos utilisateurs qui avaient les situations financières, je pense, les plus complexes et qui nécessitaient une participation de nos équipes. Donc on a eu une vision, je pense, pour résumer, qui était à la fois personnelle, puisqu'on est dans le domaine de la conviction. Je pense que ce locataire-là est en difficulté. Je pense qu'on doit faire quelque chose pour l'accompagner. Et que cette conviction est remontée en Allemagne. Et on a essayé d'être globalement... à l'écoute pour essayer de traverser cette crise. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on était encore sur un premier confinement et on imaginait tous un peu un retour à la normale rapidement. On a bien vite déchanté et on a dû se réadapter et on y est retourné. Mais l'idée, c'était ça à la base, c'est de la flexibilité, de l'agilité, un regard, et je pense, avec un historique assez long, hein, puisqu'on a un patrimoine qui... s'est étoffé au fil des années avec des locataires qui sont historiques et qu'on a pu aussi accompagner. Local, flexibilité et à l'international, je pense, une bonne qualité d'écoute de notre maison mère.
D'accord. De très belles qualités quand même. Vous avez su bien répondre au début. Et justement, alors, au fil du temps, parce qu'on a tous, comme vous le disiez, on ne pensait pas que ça allait... que ça allait durer aussi longtemps. Et du coup, on a eu un deuxième confinement en novembre. Et alors, comment ont évolué un petit peu les états d'esprit des équipes, du coup, au niveau des sociétés et dans les équipes? Est-ce qu'il y a eu un choc au niveau du deuxième confinement? Est-ce qu'on a changé un peu de discours? Comment ça s'est passé? Racontez-moi.
Je pense que pour nous, le premier confinement a été plus brutal que le deuxième. Le premier, c'était une découverte, c'était... Voilà, parfois une peur hein, de l'avenir. C'était un marché qui s'agitait dans tous les sens, hein, côté bailleur, utilisateur, conseil. On avait tous l'impression qu'il fallait absolument agir maintenant, tout de suite. Je pense qu'on était dans un niveau de pression de la société qui était très, très fort. Hein. Enfin, c'est-à-dire, c'est un confinement total. C'était le premier. On n'avait jamais vécu ça. On voyait les semaines qui se rajoutaient aux semaines de confinement. Enfin, c'était très anxiogène. Et les discussions qu'on a eues étaient parfois, c'est vrai, assez frontales. Hein. Donc je crois que ce qui s'est passé par la suite, lors du déconfinement, on a appris aussi à travailler. Encore une fois, nous, on a un patrimoine qui est majoritairement bureau, c'est vrai. Donc on a aussi beaucoup d'utilisateurs qui se sont développés dans le digital et qui ont réussi à gérer ce contexte intermédiaire de façon plutôt positive, je pense. Et donc ce second confinement, à notre sens, a été mieux vécu par nos utilisateurs. Il a été mieux vécu aussi par les équipes BeInvestment, je pense. Donc globalement, je crois qu'on s'en est mieux sorti. On a aussi appris à mieux se connaître. On avait une méthode qui était plus adaptée pour les demandes des les éventuelles demandes, parce qu'on a eu finalement beaucoup moins de demandes sur ce deuxième confinement. Et on le voit, je crois que les sociétés sont réussi à s'adapter. Et on est rentré dans des démarches assez intelligentes, parfois aussi de réduction de coûts, hein, sur des sujets qui étaient évidents, des utilisateurs qui voulaient moins de surface, qu'on a pu accompagner entre le premier confinement et le deuxième confinement. Donc on est resté actifs à cet égard-là. Donc oui, je pense qu'on a mieux géré ce deuxième confinement, parce que globalement, tout le monde est un peu mieux préparé. Et on avait certaines clés du succès qui étaient déjà disponibles et qu'on a pu activer.
D'accord, bon, super. Donc une fin d'année un petit peu mieux peut-être. Et alors maintenant, pour la rentrée un petit peu de janvier, si vous deviez résumer les changements dans les échanges avec les locataires en un mot, qu'est-ce que vous diriez ?
Je crois que un certain nombre de sociétés ont en tête de réduire leur empreinte en termes de mètres carrés pour réduire les coûts. Donc c'est une démarche qui fait sens, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on le voit, hein, la plupart des sociétés commencent à adapter leur politique au home office. Parfois elles considèrent du flex office avec effectivement en ligne de mire des réductions de coûts. Pas toutes les sociétés, mais effectivement certaines sociétés se sont dit je pense que ce serait pertinent pour nous de réduire un peu nos surfaces. Et on aperçoit effectivement dans notre patrimoine un nombre de demandes, je pense, en augmentation sur des réductions de surface, parfois de 10, 15, 20, 30% parfois pour certaines. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de regarder, c'est que ces demandes aujourd'hui sont parfois même émises avec beaucoup d'avance, c'est-à-dire que la demande a été identifiée maintenant, les locataires souhaiteraient qu'on y réponde, or bon, parfois la vie fait qu'on a des durées fermes qui ne permettent pas immédiatement de répondre. Donc on essaye aussi d'être intelligent pour trouver des accords financiers, pour essayer d'accompagner si c'est possible, parfois pour les déplacer à l'intérieur de notre patrimoine. Certains grands propriétaires ont la chance effectivement d'avoir des disponibilités ailleurs sur leurs immeubles, et ça peut permettre aussi à des utilisateurs de façon intelligente finalement de garder le client qu'on apprécie, qu'on a pu soutenir, et vice versa, pour essayer de trouver les meilleurs arrangements. Donc je pense que c'est un peu ça effectivement qu'on voit nous en ce début d'année, c'est une vraie accélération des politiques de gestion immobilière, quelque chose qui était peut-être un peu plus passif avant, qui devient un peu plus actif aujourd'hui. Et peut-être aussi que le marché parisien est un petit peu moins, un peu moins resserré par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2019-2020, début 2020, où c'est vrai qu'on avait des taux de vacances qui étaient très très faibles et qui permettaient pas non plus une flexibilité optimale, peut-être, des petits utilisateurs qui souhaitaient être mobiles ou des moins utilisateurs qui souhaitaient adapter leur gestion immobilière. Donc voilà, peut-être qu'on aura aussi cette flexibilité dans les mois qui viennent de mieux répondre aux attentes du marché.
D'accord. Donc là, si on résume, c'est de l'intelligence en fait dans le changement à venir, quoi.
Oui, merci pour vos réponses en tout cas sincères et qui nous avancent sur ce sujet qui nous préoccupait aujourd'hui. Adrien Béranger, je rappelle que vous êtes directeur Asset Management chez Union Investment. Merci d'être venu, d'avoir participé à cette première émission. Et je vous signale, Adrien, qu'en radio, le premier invité est officiellement le parrain du programme. Vous voilà donc parrain de notre émission. Félicitations.
Bravo, Adrien.
Et merci.
Et merci pour votre présence. Merci à vous, Chloé, pour votre édito, pour vos questions toujours éclairées. On se retrouve dans 2 mois avec un nouveau numéro, une nouvelle problématique et de nouveaux invités. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver via cette émission en podcast sur notre site radio.imo, sur tous vos agrégateurs de podcasts également. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Radio Imo.
Parlons tertiaire, au cœur des acteurs du territoire. Une émission en partenariat avec Bazimo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.